Bienvenue dans l'épisode pilote de Podcast, le podcast de la WebED, présenté par
Gia
et Jackpot.
Nous sommes deux autrices de webcomics. Alors moi je m'appelle donc Jackpot, je réalise le webcomic Joe en binôme avec Soyuz, que je salue, depuis juillet 2013 maintenant.
Et moi c'est Gia, et je suis également autrice de webcomics, et le mien s'appelle Funks and Frights, et il est publié depuis octobre 2017. Donc on a décidé avec Jackpot de lancer ce podcast parce qu'on a constaté qu'il y avait un cruel manque de ressources francophones sur le sujet du webcomic. On en trouve plein en anglais et notamment on s'est inspiré du podcast Speech Bubbles qui est présenté par Byte Ghost, NJ et Jeff. On vous mettra tous les liens dans la description pour aller consulter leur super travail.
Tout à fait.
Et donc ce podcast aspire plus ou moins à être la version francophone de Speech Bubbles.
Voilà. Donc à qui ça va s'adresser? Principalement, comme nous on est autrice, on va vous partager notre expérience en tant qu'autrice, donc ça va potentiellement intéresser les personnes qui veulent faire du webcomic ou qui en sont déjà, donc les aspirants auteurs et autrices et les auteurs et autrices. Mais aussi, ça s'adresse aussi aux lecteurs qui sont un peu curieux et aux personnes curieuses en général qui ont envie d'en apprendre un peu plus sur ce merveilleux média qu'est le webcomic.
Ou peut-être des personnes qui ne connaissent pas du tout le webcomic, mais qui adorent dévorer des podcasts.
Tout à fait.
Vous êtes les bienvenus.
Voilà. Vous avez le droit d'être tout simplement curieux. Oui. Alors, dans cet épisode pilote, on va s'intéresser à déjà qu'est-ce que le webcomic, on va le définir, et surtout, on va se poser la question de pourquoi. Parce que c'est celle que tout le monde se pose.
Voilà. Pourquoi choisir le webcomic en particulier,
voilà,
alors qu'il y a d'autres alternatives pour faire de la BD ou raconter des histoires?
C'est ça. Pourquoi cette forme de BD en particulier? Voilà. Donc, on va d'abord voir la définition de webcomic grâce à notre ami Wikipédia. Donc, sur Wikipédia, nous trouvons une bande dessinée en ligne, webcomic en anglais, est une bande dessinée proposée sur Internet. Les bandes dessinées en ligne sont comparables aux bandes dessinées auto-éditées, dans la mesure où quiconque peut en créer et en publier une. Les bandes dessinées en ligne étant parfois structurées comme un blog, il est possible de rencontrer l'expression blog BD pour les désigner. Donc, une définition, ma foi, correcte. Je vois que Wikipédia cite d'emblée les blogs BD. Alors moi je tenais juste à signaler qu'à mon sens, le blog BD c'est une sous-catégorie de webcomic en fait. Le webcomic pour moi c'est plus large que le blog BD en particulier. Et notamment nous on a plus une approche, en tant qu'autrice, les webcomics qu'on fait, c'est pas du tout des blogs BD justement, c'est vraiment des histoires purement fictionnelles qu'on raconte épisodiquement sur internet. Donc c'est différent du blog BD qui a été très popularisé, notamment sur la scène francophone, par des auteurs comme Boulet. Mais nous, on ne fait pas exactement ça.
Oui, d'autant plus que, si on veut prendre une définition plus large de webcomic, ça prend en compte des choses qui sont à la limite de ce que la BD peut offrir, avec notamment l'inclusion de GIFs, voire des épisodes qui peuvent être réalisés, qui peuvent être animés, des vidéos
qui peuvent être interactifs.
Beaucoup beaucoup de choses, bien plus que de la simple BD traditionnelle à laquelle on a tendance à penser, et ça fait que des fois les webcomics ça sort de ses propres définitions.
Exactement.
C'est un gros terrain expérimental. Et au tout départ, donc pour vous faire un minuscule topo de l'histoire,
on peut se demander quand est-ce que c'est apparu exactement.
C'est pas facile à dire, mais globalement...
On va pas vous donner la date exacte.
Voilà, on sait pas. Mais globalement, si on veut trouver un petit peu le moment où ça a le plus émergé, c'était plutôt début des années 2000.
Ouais, je dirais par là.
Ouais, à peu près par là. Ouais. Donc je vous renverrai à une vidéo qui en parle davantage que moi, une vidéo de H. Bomber Guy qui s'est focalisée un peu sur le cas de Ctrl-Alt-Del. On vous mettra les liens. Où en fait, c'était toute la première phase d'apparition du webcomic, c'était surtout du webcomic un peu classique, inspiré des formats qu'il y avait dans les journaux, les magazines.
Les formats de strip en 4 cases, peu BD de presse en fait.
BD de presse, et centré beaucoup autour de la thématique du gaming. Et c'était... ça allait du bien à du médiocre, mais il y avait très peu d'auteurs. Et puis petit à petit plutôt, avec l'apparition de moyens...
La démocratisation d'Internet,
la démocratisation aussi du matériel pour pouvoir poster des trucs en ligne, la démocratisation, la multiplication des sites d'hébergement. Il y a énormément de personnes de tout horizon, de tout âge aussi, qui ont pu avoir accès à ces outils pour faire du webcomic aussi, et il y a eu une explosion de thèmes, de profils, d'expérimentation aussi qui sont arrivés, et du coup le webcomic c'est devenu
le big bang du webcomic,
le
galaxie,
l'explosion cambrienne du webcomic avec énormément de choses, un gros terrain expérimental, enfin
c'est une scène indépendante qui est gigantesque. Voilà, c'est tout simplement, il y a des milliards de webcomics, enfin peut-être pas des milliards, mais il y en a vraiment beaucoup sur internet.
Oui.
Et
au moins des milliers.
Au moins. Et surtout, c'est une scène qui est internationale. C'est-à-dire qu'un webcomic, même si vous le faites, si vous êtes français, que vous faites un webcomic, si vous avez la chance de pouvoir le faire en anglais, vous pouvez toucher un public dans le monde entier.
Ou si vous faites un webcomic muet.
Aussi. Voilà, tout à fait. Dans ce podcast va être structuré, on va essayer de le structurer un petit peu toujours de la même façon, c'est-à-dire qu'on va commencer par vous raconter individuellement, chacune à notre tour, notre expérience par rapport au thème de l'épisode. Ensuite, on fera un petit débrief général, où on discutera un petit peu pour mettre en évidence les points importants du thème.
Et des choses qu'on n'aurait pas abordées dans nos expériences personnelles, mais qu'on sait que d'autres auteurs, autrices ont vécu.
C'est ça, voilà.
Enfin voilà,
de manière plus générale. On va dire ce qu'on a à dire. Et pour terminer, on vous recommandera à chaque épisode un ou plusieurs webcomics à lire qui nous auront plu pour diverses raisons que nous vous expliquerons.
Et parce que c'est sain de lire du webcomic.
Tout à fait, lisez du webcomic.
Vous serez en bonne santé, vos dents resteront bien
en place. Vous aurez le poil brillant. Et surtout, ça nous fera des lecteurs et on fera pas des webcomics dans le vide. Alors, à tout seigneur, tout honneur, je vais commencer pour vous raconter mon expérience, surtout pourquoi j'ai commencé à faire un webcomic. Alors, moi, je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, car j'ai un certain âge. Et donc, quand j'ai commencé à faire de la bande dessinée, tout simplement, j'avais pas internet. Voilà, je savais même pas que ça existait, les webcomics, donc j'ai tout simplement commencé dans le fanzina. À l'époque, j'étais au lycée, c'était il y a bien longtemps. C'était vraiment de cheap, hein. À l'époque on faisait ça à la photocopieuse, à la graphe, ça c'était petit budget.
Oui, parce que maintenant les fanzines ça existe toujours, mais ça évoque
c'est plus
trop
tout à fait
ça.
La même chose,
mais on en parlera peut-être dans un prochain épisode.
Moi j'ai connu cette époque là où on n'avait vraiment pas d'autre moyen d'atteindre un public que de se déplacer en salon avec nos fanzines sous le bras. C'était le seul moyen qu'on avait de s'auto-diffuser, tout simplement.
Quelle angoisse.
Mais c'était une époque différente, en fait.
Oui.
Et l'inconvénient de ça, c'était qu'une fois que vous aviez vendu votre fanzine, si vous arriviez à le vendre, la personne à qui vous l'aviez vendu, elle pouvait aussi bien en faire du papier toilette ou ne jamais la lire, et vous en sauriez jamais rien. Donc au niveau du retour sur ce qu'on a créé, c'est pas comme aujourd'hui, on a des commentaires, etc. Ça n'a rien à voir. Donc ça avait quand même ses limites, mais c'est comme ça que j'ai commencé. Et c'est aussi à cette époque-là où j'ai eu internet, tout simplement. Donc je me suis inscrite sur des sites communautaires, notamment DeviantArt, où j'ai commencé à poster directement ce que je faisais. Et donc là, c'était la révolution, parce que tout d'un coup, on poste un dessin et on a des commentaires, on a un retour immédiat, quoi.
Et ça, c'est cool.
Ça, c'est fou. Quand on découvre ça en tant qu'artiste, c'est quand même un peu bluffant. Et donc, de fil en aiguille, moi j'ai commencé à me construire une audience en ligne parce que je suis restée. Enfin, ça fait DeviantArt, j'ai commencé il y a 12 ans, je crois. Donc, il y a des gens qui me suivent depuis cette époque et que je remercie chaleureusement d'ailleurs. Donc, j'ai réussi à me construire un petit public. Et le fanzina, bon, pour d'autres raisons, j'ai un petit peu lâché. C'était vers 2012. Où en fait j'avais beau produire et poster sur internet, j'avais un gros problème d'identité en tant qu'artiste. C'est-à-dire que j'avais un gros syndrome de la page blanche, d'inspiration, d'autocensure, je savais pas vraiment quoi dessiner, en fait, tout simplement. Et je sentais bien que c'était un problème, en fait, que j'étais pas totalement épanouie dans ce que je faisais. Et autour de moi, les artistes que j'ai commencé à fréquenter, je me suis fait des amis sur des forums, etc., d'autres amis artistes, ils avaient beaucoup développé leur propre personnage, qu'on appelait les OC, les original characters. On les appelle toujours comme ça, c'est vrai. Et notamment, Soyuz, que j'ai rencontré à l'époque sur un forum, elle a lancé son propre webcomic qui s'appelait The Cockroach Inc., que je vous recommande d'ailleurs.
Compagnie des cafards.
Qu'elle a commencé donc en 2008. Je crois que c'est vraiment le premier webcomic que j'ai lu, en fait, que j'ai découvert. Et du coup, quand vers, donc je disais vers 2012, finalement, je me suis enfin rendu compte que j'avais une idée d'histoire et de personnage, voilà, que j'avais envie de développer. Pour moi, c'était évident que j'en ferais un webcomic. Je me suis même pas posé la question, est-ce que je fais un fanzine, est-ce que je fais une BD papier. C'était le webcomic, c'était évident. C'est même pas que j'en lisais beaucoup, hein, comme je vous disais, je crois que j'ai lu Cockroach et encore, quoi. c'était le moyen le plus simple pour moi de diffuser cette histoire. Si je me mettais à la faire, j'allais pas m'enfermer pendant des mois à créer une bande dessinée sans pouvoir rien poster sur internet pour garder le secret et arriver avec une bande dessinée physique que personne n'achèterait littéralement.
Ouais, donc vous voyez pas, mais j'opine vigoureusement, voilà, du chef à ces paroles.
Donc voilà, c'était l'évidence, c'était la simplicité, c'était le moyen le plus simple de s'auto-diffuser, parce que contrairement aux fanzines, il n'y a aucune ressource financière nécessaire, parce que le fanzine, il faut quand même bien payer les impressions, même si c'est des photocopies. Il n'y a pas besoin de se déplacer physiquement en salon, parce que à mon âge, ça commence à bien faire. Et comme ce que je disais, c'est que on peut toucher un public international. C'est-à-dire que le fanzine, vous le vendez à 3 personnes dans une convention, vous ne le vendrez pas, alors que le webcomic, vous le mettez en ligne, il y a des gens de l'autre bout du monde qui peuvent le lire, en fait, si vous pouvez le mettre en anglais. Donc voilà, c'était évident. Et donc je me suis lancée dedans comme ça, sans avoir la moindre idée d'où je mettais les pieds. J'avais vraiment, avec Soyuz, on avait juste une idée en personnage, et puis on savait pas du tout où on allait, on s'est lancé vraiment comme ça.
Une idée, c'est ce qui suffit pour commencer un webcomic.
Exactement. La preuve, 6 ans plus tard, nous sommes toujours là. Et ça a été une énorme révélation artistique personnelle pour moi, parce que du coup, tout d'un coup, je savais pourquoi je dessinais. Et à partir du moment où on sait, le dessin c'est un moyen qui va s'exprimer au service d'une fin, et à partir du moment où on a trouvé la fin, on se pose moins de questions sur le moyen, en fait. Plutôt tout prend sens. Donc tout est plus, voilà, c'était la révélation pour moi.
Agencement cosmique.
Exactement, alignement des étoiles. Voilà, et bah, par ailleurs, je précise aussi que professionnellement j'étais installée dans l'animation, donc j'avais aucun besoin, j'ai pas non plus envisagé d'aller démarcher un éditeur pour rentrer dans le chemin de la bande dessinée classique. Parce que, tout simplement, j'en voyais pas l'intérêt. Voilà. Pour moi, c'était le webcomic et pas autre chose. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour.
Oui. Ben...
À ton tour.
Voilà, donc c'est à moi. Alors, si je dois donner une réponse large, existentielle et moi aussi cosmique à pourquoi le webcomic, c'est que j'ai un besoin viscéral depuis toujours de raconter des histoires. Et le webcomic, effectivement, c'est ce qui s'impose un peu comme ce qu'il y a de plus simple quand on aime dessiner et qu'on veut raconter des histoires en dessin. Et après, si je veux être plus précise, déjà, moi, ça fait beaucoup moins longtemps que Jackpot et Soyuz que je fais du webcomic. Ça fait quoi ? Fangs and Frights a soufflé sa première bougie en octobre dernier.
Félicitations !
Oui.
Joyeux anniversaire !
Joyeux anniversaire ! Et j'ai attendu en fait la fin de mes études et d'être bien installée dans mon travail, dans ma vraie profession, pour avoir une stabilité financière et aussi une stabilité d'horaire pour pouvoir savoir comment gérer mon temps libre. Parce que quand j'étais étudiante, le temps libre, c'était juste une légende urbaine, hein, on savait pas ce que c'était. et aussi, surtout, j'ai dû franchir le cap du... je suis pas capable de faire ça correctement, je suis toujours pas capable de faire ça correctement, mais je vais apprendre. Et donc je me lance.
Exactement.
Et ça, pour moi, ça concernait particulièrement les décors. J'avais un gros gros blocage dessus, et je l'ai toujours à bien des égards, mais maintenant, je mets ça un peu de côté, je me dis je vais progresser en faisant. Et en fait, j'ai juste attendu d'avoir un tout petit peu meilleur niveau que ce que j'avais pour me dire ok, ça fera des images... pas tip top, mais au moins je suis capable de représenter à peu près ce que je veux en termes de décor. Et allez, ça suffit, assez tergiversé, on y va. On se jette à l'eau. Me concernant, ça a démarré, si je remonte le fil de mon existence, c'était des personnages que j'avais gribouillés pendant que j'étais en train, donc dans mes études, je faisais mon projet de diplôme qui était extrêmement prenant. Pour déstresser dans des mini-pauses de 5 minutes, je faisais un petit gribouillage et je dessinais régulièrement les mêmes personnages qui revenaient. Et puis, je me suis attachée à eux, donc ça c'était en courant 2015-2016. Et puis après, j'ai trouvé un travail et pour me détendre, donc quand j'étais chez moi, j'ai continué à me dire si je leur écrivais une petite histoire comme ça, pour le fun. Donc j'ai écrit une espèce de petit début de roman, très mauvais, hein, parce que je suis pas du tout romancière. Et finalement, le roman, il était nul, mais l'histoire en elle-même, elle me plaisait bien. Mes personnages, ils me plaisaient de plus en plus. Je me suis dit, bon, avec la stabilité financière, avec le fait que j'ai du temps libre, avec tout ça, est-ce que c'est pas le moment d'en faire quelque chose d'autre pour ensuite que cette BD-là me serve de terrain d'expérimentation, me serve de prétexte pour m'améliorer, pour qu'on puisse ensuite, je puisse faire d'autres choses.
Ouais, t'as pas voulu te mettre la pression,
exactement.
Plutôt de lancer, quoi.
C'est ça, j'ai voulu me lancer en sachant très bien que j'allais faire des trucs, que j'allais progresser. En fait, je me suis lancée pour ça, je me suis lancée en me disant, je veux progresser, je veux que mes résultats, mon style, mon évolution de style, elle soit visible. Je veux me rendre compte de qu'est-ce qui fait que je suis pas... quelles sont les choses dans lesquelles je suis mauvaise, quelles sont les choses dans lesquelles je suis bonne, quelles sont les choses que je suis capable de faire. Donc tout
c'est
ça,
c'est... voyage initiatique.
C'est ça, voyage initiatique.
Dans ton cheminement artistique.
Et donc le webcomic en particulier, eh ben, c'était à peu près pour toutes les mêmes raisons que celles que Jackpot a déjà exposées. C'est ce qu'il y a de plus facile. J'avais pas du tout envie de démarcher des éditeurs parce que ça aurait été pour le coup du vrai travail et plus du passe-temps.
Exactement.
Et que en plus, on va pas en parler là, mais se faire éditer c'est galère, et si on se fait éditer en plus on a énormément de contraintes qui fait qu'on a plus du tout la même liberté que si on publie son webcomic.
Oui, ça devient un travail, enfin voilà, t'es plus totalement maître à bord, quoi.
Oui. Et effectivement, si je me retrouvais avec la chance d'avoir un lectorat sympa, régulier, tout ça, j'aurais pu avoir la possibilité d'interagir avec eux, et j'ai
aussi
la chance...
Parce que t'as pas en édition classique.
Voilà, et effectivement ça m'a attiré beaucoup, et j'ai de la chance parce que j'ai pas un énorme lectorat, mais j'ai vraiment des lecteurs qui sont là, qui sont sympas, qui répondent présents, et ça c'est chouette. C'est vraiment chouette. Et donc voilà, donc j'ai commencé à publier Funks and Frights à Halloween 2017, et depuis, ben, une page,
toujours là,
voilà,
une page par semaine.
Une page par semaine.
Comme les vrais. Eh ben merci pour ton témoignage, Ia.
Mais je vous en prie.
Donc, de ce qu'on a dit, ce qui se dégage, c'est que le webcomic, c'est un petit peu le côté obscur de la BD. C'est-à-dire que c'est plus rapide, plus facile, plus séduisant. C'est-à-dire que, voilà, c'est principalement le webcomic, c'est l'autodiffusion, donc grâce à Internet, qui est un formidable média. Donc, n'importe qui peut le faire. C'est-à-dire que si vous vous levez le matin, vous voulez faire un webcomic, dans la journée, vous pouvez avoir posté votre première page sur Internet et ça y est, vous faites un webcomic.
Ah oui, c'est tellement facile maintenant de poster des pages. Tu choisis n'importe quelle plateforme. Bon, Tumblr, c'est un peu en train de mourir, mais par exemple, Tumblr, tu te crées en deux clics, c'est bon, t'as créé ton Tumblr, c'est pareil pour plein d'autres blogs, et tu postes tes pages.
C'est qu'il y a une facilité déconcertante pour se lancer là-dedans. Enfin, après, ça dépend quand vous envisagez la chose, mais vous pouvez vraiment vous lancer du jour au lendemain. Il n'y a pas besoin de, contrairement à la bande dessinée classique, il n'y a pas besoin d'aller voir un éditeur, d'essayer de convaincre quelqu'un que votre projet il est tellement bien qu'il va vendre des tractopelles d'albums, parce qu'il n'y a aussi pas de contrainte de vente dans webcomic. Enfin, vous n'êtes pas obligé d'essayer beaucoup de webcomics s'éditent en papier, mais c'est pas une obligation.
Et c'est souvent une étape qui vient bien après avoir eu du succès aussi, donc ça concerne vraiment pas tous les webcomics.
La plupart des webcomics, ce qui est important, c'est qu'ils sont publiés sur Internet, en ligne, au fur et à mesure, et que c'est comme ça que les gens les consomment, gratuitement. Donc pas de business, pas de contraintes business.
Ouais. Et aussi, l'autre grosse spécificité du webcomic, c'est ce que j'évoquais un petit peu tout à l'heure, c'est la possibilité de créer avec des médias qui sont à la limite d'autres médias, de créer aussi des formats de planches qu'on ne peut pas explorer, des formats de cases, d'utiliser la technologie à son maximum pour créer...
C'est plus limité par le format, par exemple, l'album 46 pages, couverture cartonnée, qui est le format classique de la bande dessinée franco-belge, où même si le manga est quand même beaucoup plus libre au niveau graphique, il y a quand même un format de page que vous devez respecter à un moment donné, alors que le webcomic, vous pouvez décider de faire n'importe quoi, en fait.
Ouais. Et toi, toi, par exemple, pour Jo, vous avez un format un peu particulier pour vos épisodes, vous avez des cases horizontales, et c'est vachement pratique pour scroller, en fait.
Oui, c'est ça, c'est que nous, notre format, c'est une colonne de cases, il y a quand même une spécificité au niveau de la lecture sur écran qui fait que on va souvent, enfin les gens sur écran vont scroller, donc il y a une lecture qui se fait en sens vertical, et donc nous on a choisi de prendre un format qui prend en compte ce défilement vertical de l'écran dans notre narration même. Donc on n'a pas du tout un format en planche défini, on a juste une colonne de cases, et puis c'est super parce que si on a besoin de 10 cases pour raconter ce qu'on veut, on peut mettre 10 cases, si on a besoin de 20 cases, on peut mettre 20 cases, on n'a aucune contrainte à ce niveau-là.
Vous avez déjà osé faire une seule case?
Pas encore.
Défi.
Je le note. Le plus court qu'on a fait, c'est 6 cases.
Sinon, tu fais un truc de troll, tu mets une case, rien du tout, et une case à la fin.
Oui. Mais pourquoi pas ?
Mais oui,
parce que pourquoi pas ? Voilà,
mais
c'est
ça l'intérêt. On le peut, c'est possible.
Puisqu'on
c'est
peut.
Pas très sympa pour le lecteur en l'occurrence, mais c'est possible.
Voilà, et bah, notamment dans ce côté expérimentation visuelle, et on peut faire vraiment des choses qu'on peut pas faire pour le coup avec du papier et de la BD classique. Bah, y a un webcomic qui s'appelle Falena, qui a été fait par Mariette Arène, qui a été développé sur des applications pour tablettes et smartphones.
Si j'ai bien compris, même le webcomic et l'application.
Oui, c'est ça,
en
le webcomic, il faut télécharger une application. Et là, pour le coup, c'est un format qui est horizontal, qui est en scrolling. Quand on scroll, ça fait défiler l'image dans le sens horizontal. Et il y a des effets de parallaxe.
On fait slider, en fait.
Voilà, c'est ça, qui vont créer... Enfin, tout le visuel se construit en fonction du défilement de l'écran à la souris, quoi.
Quel travail.
C'est un travail de fou, mais c'est une expérience visuelle qui est vraiment propre au format webcomic.
Et moi, j'ai un autre webcomic à citer aussi, un webcomic qui pour le coup a pas un format fixe, mais un chapitre de temps en temps. Donc la personne qui fait le webcomic, les trois quarts du temps, c'est des pages très classiques. Elle pourrait les imprimer pour en faire une BD traditionnelle normale, mais un chapitre de temps en temps, c'est une animation. Et donc tu dois aller sur YouTube pour avoir ton chapitre.
Ah, c'est très bien, ça.
Ouais, c'est assez cool. En plus, c'est trop beau. Donc le webcomic, pareil, on vous mettra tous les liens. Je l'ai déjà dit, mais le webcomic, c'est Living When Dead, et l'autrice, c'est Kool-Aid Girl, comme la boisson Kool-Aid.
Ah oui, non,
ouais, je sais pas pourquoi elle a choisi ce pseudo.
Parce que je sais pourquoi j'ai choisi Jackpot.
Ah, moi je sais pourquoi j'ai choisi Yeah. C'est parce que c'est le cri d'un cow-boy enthousiaste.
Yeah,
trop bien. Mais oui.
Eh bien, j'aurais appris quelque chose pendant l'enregistrement de cet épisode. Et ouais, et ben moi ça me fait penser à un webcomic qui malheureusement s'est arrêté, qui s'appelle Black Brick Road of Oz. La route, c'est en référence à la route du Magicien d'Oz.
Donc là,
c'est une adaptation du Magicien d'Oz, enfin, c'est une version revisitée du Magicien d'Oz. Et il y avait la plupart des cases, des planches, enfin des épisodes, c'était des planches standards. Mais de temps en temps, il y avait carrément un épisode, c'était un jeu vidéo interactif. C'est-à-dire c'était du pixel art, une énorme map, il fallait aller chercher des indices, etc. pour passer à l'épisode suivant.
Ça a l'air génial.
Il y a vraiment des possibilités, mais infinies, au niveau visuel, narratif, etc. Parce que surtout, tout ce qui est intéressant, c'est d'accorder sa narration à la technique qu'on emploie, en fait.
Ouais. Après, c'est comme le webcomic aussi, une des particularités, c'est qu'on fait ça un peu... tellement comme on veut, que on peut le faire pour son propre plaisir. C'est un peu optionnel que soit en lien le fond et la forme soient en lien, mais c'est vrai que si on arrive
c'est
à le faire
voilà.
Si on arrive à le faire, c'est d'autant plus enthousiasmant.
Ben voilà,
et du coup tu mentionnes un webcomic qui s'est arrêté,
donc parce que ça c'est le
ouais.
C'est une autre particularité des webcomics, contrairement à la bande dessinée classique, c'est que elle est la plupart du temps elle est créée en direct, c'est-à-dire qu'elle est diffusée, enfin l'auteur est en train de la faire quand il la poste. On peut avoir un peu d'avance, on peut avoir planifié plus ou moins ses chapitres, etc. Mais en général, le game, entre guillemets, c'est de faire ses planches au fur et à mesure et de les poster au fur et à mesure. Ce qui fait qu'en tant que lecteur, on est soumis au bon vouloir de l'auteur, à la motivation de l'auteur. Enfin, si, pour quelque raison que ce soit, l'auteur du jour au lendemain ne peut plus faire son webcomic, on ne connaîtra jamais la fin de l'histoire. Donc Black Brick Road of Oz, malheureusement, fait partie de cela.
Quand on est auteur, c'est vachement bien, parce que ça veut dire que si on en est capable, on se met pas la pression et on fait vraiment à son rythme, et voir si on arrive à un point où on se dit non, en fait, le truc sur lequel je travaille depuis toutes ces années, j'ai plus envie d'aller jusqu'au bout, on peut arrêter.
Ben voilà.
Par contre, c'est vrai que du côté lecteur, ça peut être très très frustrant.
Voilà.
Ouais.
Et
du coup, ça implique aussi, autant pour les lecteurs que pour les auteurs et autrices, c'est comment on gère de lire ou de produire un contenu qui est censé être épisodique, ou un contenu qui est censé être lu en un seul coup.
Oui.
Ouais,
c'est que narrativement, c'est vrai que le webcomic, traditionnellement, c'est posté généralement planche par planche. C'est-à-dire qu'un webcomic, il y a une ou deux fois par semaine, l'auteur poste une planche. Donc du coup, quand on est habitué à la lecture d'une BD classique, on s'assoit dans son fauteuil et on lit sa BD de A à Z, ça n'a plus rien à voir en tant qu'expérience de lecture. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'écriture et de la narration, il faut arriver à générer, à accrocher suffisamment le lecteur pour qu'il ait envie de revenir et de lire ses planches toutes les semaines. Alors après, il y a certains lecteurs qui vont tout simplement attendre, je sais pas, 6 mois et puis venir tout lire.
C'est mon cas, je suis une terrible lectrice de webcomic. Ouais. J'attends 6 mois, voire un an, quand j'aime bien un webcomic qui est plein de planches à lire, et ensuite je les lis.
C'est ça, et du coup. Moi, c'est un peu l'inverse, c'est qu'il y a je lis très peu de webcomics, mais ceux que je lis, je les aime tellement qu'il y a une planche tous les 6 mois, je me jette dessus comme la misère sur le monde, et je vais vraiment tuer une planche. Et
elle,
voilà.
elle a tellement faim.
Mais je pense aussi qu'avec les sites communautaires comme Tapas ou Webtoon, les gens, en fait, comme il y a énormément de webcomics, je pense que les gens vont plus, maintenant l'habitude de lecture, ça va être de s'abonner à beaucoup de webcomics, et de lire comme ça plusieurs webcomics en même temps, en fait.
Quand je vois, il y a des profils de lecteurs qui ont 3000 webcomics dans leur librairie, mais je me dis, mais comment ils font? C'est pas possible.
Et en même temps, c'est un peu pareil avec Netflix et les séries, tu vois. C'est aussi une habitude de consommation de contenu fictionnel qui commence un peu à se...
Voilà. Alors, moi, personnellement, j'ai tendance à jeter un petit coup d'œil à des sur Tapastic, sur Tapas, à des webcomics qui ont l'air de m'intéresser. D'abord, je regarde évidemment un peu le dessin et le thème. Et après, si je vois que ça a l'air de me botter, je le rajoute dans ma librairie pour le lire plus tard.
Ah mais, oui, oui, ouais. Oui. Moi, je ne rajoute... Enfin, moi, si je fais ça, je sais que je vais oublier de le lire. Le plus tard, c'est... J'aurai jamais le temps.
Ah, on est terrible, on est terrible.
Non, bah, ne prenez pas exemple sur nous, vous lisez plein de webcomics. Venez lire toutes les semaines.
Mais en même temps, on n'a pas le temps parce qu'on fait les nôtres.
Mais voilà, exactement. Parce qu'il y a à produire et il y a à consommer.
Oui. Ouais. Enfin, ceci dit, j'en lis beaucoup plus depuis quelques mois que... au moment où je me suis lancée dans mon webcomic, ça m'a donné envie de m'y intéresser de beaucoup plus près.
C'est vrai.
Ouais.
Et Tapas, c'est vrai que c'est bien pour ça.
Il est bien pensé, ce site, je trouve.
Et c'est vrai qu'en tant qu'autrice, c'est un défi. Faire un webcomic, c'est un sacré défi. Parce qu'il faut quand même arriver à gérer la pression de produire son histoire au fur et à mesure.
Faut avoir de l'endurance.
Avoir beaucoup d'endurance. Faut arriver à parce que l'idée, c'est vraiment de produire... produire rien qu'une planche par semaine, c'est déjà un rythme professionnel.
À la fois produire beaucoup, mais surtout produire sur le long terme.
Voilà, c'est ça. C'est...
Des webcomics courts, il y en a. Il y en a des tout petits où les gens les publient après l'avoir déjà fini parce que ça fait 20 ou 50 planches. Mais la majorité, la plupart du temps, les webcomics, c'est... des grandes aventures sur plusieurs années.
Oui, c'est ça. On sait de quoi on parle. mais c'est vrai que, enfin, il y a un côté, c'est un défi qui est très stimulant, qui est très instructif, on apprend beaucoup de choses. Ça peut être frustrant parce que, comme toi, quand par exemple t'as écrit ton histoire et que t'aimerais bien arriver à tel endroit de l'histoire, mais tu dois faire d'abord tout ce qu'il y a avant, ça peut être un peu frustrant.
Oui. On est tout le temps en train de se dire « Ah, j'ai hâte de faire ce passage, mais d'abord il faut que je fasse tout ça !»
Mais moi, je n'ai pas ce problème. parce que nous, avec Soyuz, on a une approche qui est beaucoup plus au fur et à mesure. En fait, on a vraiment construit notre histoire... comme ça, un peu à la volée, enfin, ça s'est structuré de plus en plus avec le temps, mais...
En straight to head,
voilà, exactement, ça c'est un terme technique.
Terme technique d'animation, où on dessine sans avoir d'image clé entre... Enfin bref, c'est pas grave.
on fera spontanément, spontanément.
C'est ça.
Dans la spontanéité.
Sans plan au préalable.
Voilà, c'est ça.
Oui.
Et donc du coup, j'ai moins le problème de la frustration. Mais par contre, il faut tenir la motivation sur le long terme, quoi. Faut avoir envie de créer cette histoire, quoi.
Et il faut savoir se ménager des pauses.
Aussi.
Parce que tenir sur le long terme, ça implique qu'il y a des moments où il faut faire autre chose. Se reposer un peu. Prendre du temps pour soi, vivre d'autres expériences, réfléchir.
Le burn-out vous guette.
Ah ouais, non.
C'est très intense. Créer un webcomic, créer une BD, déjà, c'est quelque chose, mais créer un webcomic,
c'est un choix de vie.
C'est
en
la
fait.
Version hardcore, vous voyez, c'est le Dark Souls de la BD.
Alors, hardcore, je sais pas, mais souvent ça implique. C'est très rare les auteurs de webcomics qui arrivent ou qui décident d'en faire leur métier et du coup qui font ça à plein temps. Donc, ça veut dire que c'est un travail presque, pas aussi intense, mais un travail quand même qu'on se rajoute sur le reste de sa vie.
Exactement, ouais.
Et donc, ça, selon comment on gère déjà sa vie au départ, ça peut être difficile à vivre.
Mais donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a aussi une certaine indulgence par rapport à ce que je disais, les webcomics qui vont s'arrêter, parce que tout simplement, c'est une scène indépendante et en grande majorité, c'est une scène amateur. Ouais. C'est-à-dire qu'en tant qu'autrice de webcomics, on est amateur, on n'est pas professionnel, on n'a pas de contrat, on n'est pas payé pour le faire. Donc, si un jour on peut plus le faire, vous n'allez pas nous enquiquiner.
On va peut-être pas menacer les auditeurs
non.
de suite.
Mais...
et du coup, oui, aussi le fait que ce soit sur plusieurs années, donc ça c'est un peu ce dont on a parlé plus tôt, c'est l'évolution de son style, on s'améliore beaucoup en le faisant.
Ouais,
on finit par plus du tout être la même personne que celle qu'on était au départ. Et du coup, de fait, le contenu, que ce soit sur le fond, la forme ou les deux, il aura forcément évolué, généralement en beaucoup mieux. et il faut résister, voilà, donc il faut résister à l'envie de retourner réécrire pour mettre à niveau ce qu'on a fait précédemment, parce que ça c'est un gros piège.
Ne faites pas ça.
Non, non, continuez à créer votre histoire, à créer de nouvelles histoires, mais n'allez pas refaire ce que vous avez déjà fait.
Ouais, c'est ça qui est très intéressant dans le webcomic, c'est que c'est un média évolutif, parce que ça va être sur le long terme, et vous allez voir l'évolution du style graphique, de la façon dont est racontée l'histoire, parce qu'il y a, aussi des auteurs qui décident de changer en plein milieu de leur webcomic leur format, par exemple.
Ou des bricoles, même. Il y avait un webcomic que je lisais où tout d'un coup, l'auteur s'est dit « Tiens, en fait, j'aime pas la coupe de cheveux de ce personnage. » Et pof, la page d'après, il avait changé la coupe et il l'a mis en commentaire. « Ouais, en fait, j'ai décidé que je changeais sa coupe de cheveux, mais c'est tout. »
Parce que pourquoi pas.
Voilà. Parce que pourquoi pas.
La réponse à la question de cet épisode « Pourquoi le webcomic ?» est « Parce que pourquoi pas. » Et c'est un peu la base de tout élan créateur, finalement. Mm-mm. Parce que pourquoi pas.
Rien n'est interdit.
Rien n'est... Tout à fait. Est-ce que c'est là, le webcomic, c'est la liberté.
Voilà. Et donc, le webcomic, c'est la liberté. Donc, on va peut-être passer à quels conseils on pourrait donner à des petits aspirants webcomiqueurs.
Tata JP et Tata IA vont vous donner leurs conseils de mémé.
Écoutez bien, les enfants. Donc,
si vous voulez faire un webcomic, ce qu'on vous souhaite, parce que c'est cool, posez-vous la question de qu'est-ce que vous aimeriez faire. Parce que quand on est artiste, on consomme beaucoup de contenu artistique et on en produit. Et parfois, on va aimer lire ou consommer ou voir des choses qui ne sont pas ce que nous, on aime vraiment faire, en fait. Et ça, il faut arriver, quand on commence à faire un comic, c'est quelque chose ça va vous embarquer sur des années, il faut que vous ayez envie de le faire. Ouais. Vraiment, faut que ce soit ce avec quoi vous serez à l'aise à créer. Faut que ce soit un minimum dans votre zone de confort.
Ouais.
Sinon, vous allez vraiment partir.
C'est super.
Vous mettre, tirer une balle dans le pied dès le départ.
C'est super bien de se lancer des petits challenges techniques ou autres. Mais
le plus gros challenge du webcomic, c'est
faire le webcomic.
L'endurance, voilà. C'est le faire, tout simplement.
Ouais. Mais oui, si au départ vous n'êtes pas un minimum à l'aise avec ce que vous faites, ça va être trop dur
en fait.
Ça va
être compliqué.
Vous allez juste pleurer. Et. Moi, je rajouterais à ça un petit conseil un peu adjacent et pas tout à fait la même chose. C'est pour que vous ayez envie, en plus de faire ce que vous aimez faire, pour que vous ayez envie de voir votre histoire aller jusqu'au bout, il faut que le cœur de votre histoire, que votre personnage ou que l'histoire que vous avez en tête ou que quelque chose comme ça soit quelque chose que vous vouliez voir arriver. Il faut que vous soyez un peu votre plus grand fan pour être la personne qui vous pousse vous-même à « Hey !» Je veux voir la fin de l'histoire.
C'est ça.
Voilà.
C'est important d'être quand même attaché à ses personnages et à son histoire. Même si c'est pas ce que vous préférez. Je sais pas, vous avez envie de. Vous adorez l'espèce opéra et vous aimez dessiner de la fantasy. Et ben, c'est pas grave, faites de la fantasy, mais attachez-vous à votre histoire de fantasy quand même.
Voilà. Oui.
Comme si c'était un espèce opéra.
C'est ça. Mais peut-être vous arriverez à trouver quelque chose d'un peu hybride entre
aussi,
les deux
pour. Tout à fait, ouais.
Enfin, il y a moyen, il y a toujours moyen.
Il y a toujours moyen.
D'intégrer des choses qu'on aime bien et.
Webcomic is the way.
Ouais. Et on va donc passer à
la recommandation.
La recommandation de webcomic.
Voilà, hein, parce que leur tourne.
Et oui. Et donc, qu'est-ce qu'on va recommander comme lecture, Jackpot?
Je ne sais pas, Ia.
Alors.
Je t'en prie, à toi, l'honneur.
Oui, mais si on recommandait nos propres webcomics.
Quelle idée formidable.
Eh bien, moi, je vous recommande la saine lecture du webcomic Jo. C'est donc le webcomic que font Jackpot et Soyuz. Et c'est l'histoire d'une cowgirl qui est dans son ranch, elle est peinarde, elle a ses vaches, elle veut qu'on lui foute la paix, mais on lui fout pas la paix. Elle a des voisins...
Plot twist.
Ouais, plot twist. Elle a des voisins un peu trop bruyants, elle a des gens qui viennent pour essayer de voler son bétail, elle a une stagiaire, une peste qui s'intéresse qu'à la science, et de fait, Jo, sa première réponse pour régler ses problèmes, c'est d'avoir la gâchette un peu facile. Et donc avec toute une flopée de personnages haut en couleur, bien que le comic soit en sépia, enfin en noir et blanc.
Oui, tout à fait, c'est vrai.
Eh bien, je sais plus quel était le début de ma phrase. Des personnages en couleur, des histoires sympas, puisque c'est arc par arc un petit peu chez vous.
Ouais.
Et globalement, un bon sens de l'humour.
Voilà. Oui, parce que nous aimons l'humour.
Nous aimons
moi. Nous aimons l'humour et Joe, c'est drôle. Lisez Joe, c'est drôle. Eh bien, moi de mon côté, je vais vous recommander un petit webcomic qui s'appelle Fangs and Frights, qui est par une certaine Yiha, qui se trouve assise à ma gauche actuellement. Et c'est l'histoire de Nathan, un jeune garçon qui se réveille un jour, un matin, dans un étrange laboratoire. Non, c'est la nuit. C'est la nuit. Il se réveille dans un étrange laboratoire et il se rend compte qu'il est devenu un vampire. Donc il s'échappe du laboratoire, il rencontre une louve-garoute très sympathique et ensemble ils vont essayer de comprendre ce qui leur est arrivé et comment vivre leur nouvelle vie de pas tout à fait êtres humains.
Voilà.
Et c'est très sympa, les personnages sont très attachants, c'est très bien écrit, des bons dialogues.
C'est trop gentil. C'est vrai, tu trouves ?
Mais ouais. ça se lit très bien. Oh, bah, il y a une page par semaine, tout en couleur.
Oh, oui.
Et oui. Voilà, une saine lecture que je vous recommande si vous aimez le fantastique, les loups-garous, les vampires. Et rire aussi, car nous aimons l'humour.
Et oui.
Et j'ajoute juste une dernière recommandation. Je tiens quand même à recommander Cockroach Inc., qui est donc le webcomic de Soyuz, qui est ma scénariste sur Jo.
Et qui a tout démarré finalement.
Qui a tout démarré finalement, c'est vrai.
Donc, on lui doit tant. Voilà,
qui est un webcomic pour le coup qui est terminé. Vous pouvez le lire en entier. Il a commencé en 2008, il s'est terminé je sais plus quand d'ailleurs. Mais enfin voilà, l'histoire est terminée. Et ça raconte l'histoire de Cyprian et Ovid, qui sont deux jeunes étudiants de la fac de Jussieu, je crois. Et ça raconte leur déboire quotidien, amoureux, entre autres. Voilà, et c'est très drôle.
Car nous aimons l'humour.
voilà, donc c'est la fin de cet épisode pilote de podcast. On vous remercie de l'avoir écouté.
On espère que ça vous aura plu.
Voilà, malgré nos bafouillements et notre humour douteux. Donc n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des likes, vous abonner à la chaîne, vous connaissez la chanson. Mais surtout, les likes c'est gentil, mais nous ce qu'on aime c'est les commentaires.
Surtout si vous avez des commentaires constructifs.
Voilà, tout à fait, notamment. Voilà. Mais même si c'est juste pour nous dire que vous nous aimez, hein, vous pouvez y aller.
Ah, oui, on aime l'humour, mais on aime aussi l'amour.
Voilà, ouais. C'est beau. Donc on se retrouve très bientôt dans le prochain épisode de podcast qui portera sur le thème comment commencer un webcomic.
On va rentrer dans le vif du sujet.
Tout à fait.
Voilà.
À bientôt.
Au revoir.